Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode du podcast, on reçoit une personne qui ne sait plus si c'est son premier podcast ou pas, mais c'est peut-être le premier. Je suis ravi de discuter aujourd'hui avec Chloé l'écrivain. Bienvenue Chloé.
Salut Thomas.
Et je vais te poser une question que j'ai pas l'habitude de poser au début des épisodes, même si je devrais, mais ça va teaser un peu la suite pour le sujet dont on va parler. Est-ce que tu peux me donner ton pronom, s'il te plaît?
Mes pronoms sont elle, il et elle. J'utilise tous les pronoms.
Ok.
Et ça me va très bien que les personnes utilisent tous les pronoms aussi pour s'adresser à moi.
Trop bien. On reviendra sur pourquoi c'est important cette question-là. Mais avant qu'on se lance dans tout ce grand sujet-là, première question rituelle. Est-ce que tu peux nous partager comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que en fait, j'aime faire beaucoup de choses et je crois que le salariat, ça m'aurait trop limité dans mes envies. Mmh. Donc il y a cette raison-là. La raison suivante, c'est parce que j'avais envie de faire changer les choses dans le monde et j'avais du mal à voir ça possible à travers le salariat. Mmh. Et ensuite, la troisième. Toutes mes raisons, elles sont anti-salariat. La troisième, c'est parce que j'ai trop besoin de gérer mon temps comme je l'entends et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, je crois, en fait.
Ouais.
Donc, ouais.
C'est, tu t'es lancé dès la fin des études, déjà, du coup
Non, pas tout de suite.
T'avais une expérience pro.
Ouais. Pas tout de suite. Je me suis lancée en 2018. Et ça, ouais, ça... Enfin, non, en fait, j'ai une première expérience de l'entrepreneuriat plutôt à la sortie de mes études. Mais du coup, j'avais un job alimentaire en parallèle, donc j'avais quand même un job salarié à côté.
Ouais.
Et après, un D, c'est, ouais, 2018, quand j'ai ouvert mon cabinet de naturo, du coup.
Yes.
Et depuis, un D, quoi.
Ok. Je te pose la question parce que, comme tu disais, la plupart de mes raisons sont anti-salariat. Et je voulais savoir si ça se base sur une expérience concrète qui s'est mal passée ou sur les projections de ce qu'on se pense que c'est, ce qu'on se raconte que c'est. C'était pour ça que je te posais la question.
Ok. Du coup, je pense que là, pour le point, j'ai besoin de gérer mon temps, c'est parce que j'ai eu l'expérience du coup du salariat.
Ouais.
Et ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'ai vraiment besoin de pouvoir me lever à l'heure que j'ai envie de me lever. Donc, ça veut dire, ça peut être hyper tôt, ça peut être plus tard aussi. De, je sais pas, à un moment l'après-midi, si j'ai envie d'aller me promener, ben en fait, je vais aller me promener. De bosser tard le soir, si j'ai envie de bosser tard aussi. Mais du coup, de vraiment être maître de mon temps, quoi.
Ouais.
Ça, c'était pas possible avec le salariat. Et l'autre point, je pense que c'est... En fait, les expériences que j'ai eues dans le salariat, même si, pour certaines, elles étaient dans une logique de changer les choses, de faire changer les choses, pour moi, c'était pas assez.
Ouais.
Et du coup, ouais, j'avais l'impression que je pouvais avoir plus d'impact en étant indépendante.
Ok.
Qu'en étant salariée, en tout cas.
Ouais. Ce que j'entends, du coup, c'est qu'il y a à la fois une dimension de contrôler la part des choses pour toi et à quoi ressemble ton existence au quotidien, mais surtout la marge de manœuvre que tu as sur ce que tu veux apporter aux autres qui te semblait plus grande en étant à ton compte et en créant ta propre chose que de t'introduire dans le modèle de quelqu'un d'autre et l'entreprise de quelqu'un d'autre, quoi.
Ouais, exactement.
Et du coup, tu disais que tu t'as commencé en tant que naturopathe en 2018, c'est ça?
Ouais.
C'était quoi l'impact que tu cherchais à ce moment-là? Et parce que j'ai l'impression, en tout cas dans la forme, que ça a changé, mais est-ce que c'était la même chose que tu cherchais avant à offrir aux gens et maintenant?
Ouais, alors c'est marrant parce que je pense que depuis peu de temps, je me rends compte qu'en fait, déjà quand je me suis lancée en tant que naturo, ma volonté était en fait toujours la même, c'était de donner plus de pouvoir aux gens.
Mmh.
Et du coup, avec la naturo, l'idée c'était de pouvoir donner plus de pouvoir aux gens en ayant mainmise un peu sur leur santé et sur leur bien-être.
Okay.
Et du coup, en s'éduquant en fait sur la santé de manière naturelle, sur des différentes pratiques en fait pour pouvoir se sentir mieux au niveau émotionnel, au niveau du stress, etc. Mais à cette époque, j'avais pas trop encore une vision systémique des choses, tu vois. Donc, je pense qu'on va oui. en discuter de ça plus tard. Mais ouais, j'avais pas encore une vision systémique des choses. Mais il y avait déjà cette volonté quand même de faire en sorte que les gens aient plus de pouvoir. Et du coup, trouver une certaine forme de liberté, en fait, tu vois. Donc là, c'était du coup par le prisme de la santé.
Ouais.
Du coup, une forme de liberté par rapport à la médecine allopathique.
Mmh.
Qui parfois peut être, qui parfois peut manquer en fait d'éducation, qui est très utile, mais qui peut parfois manquer d'éducation auprès des personnes. Et du coup, ouais, l'idée de la naturo, en tout cas la manière dont je l'amenais, c'était de juste éduquer les gens sur leur propre santé et pouvoir être au courant en fait de comment ils fonctionnent et de quoi ils ont besoin, etc. quoi.
Ça veut dire quoi pour toi? T'as utilisé plusieurs fois le mot pouvoir.
Ouais.
Et je suis curieux de ce que t'entends par ça, parce que je pense que c'est un mot qu'on peut... Enfin, on a une résonance différente avec ce mot, et on peut avoir un rapport différent avec ce mot. Quand tu dis « rendre du pouvoir aux gens », et t'as utilisé ça aussi à côté du mot « liberté », je suis curieux de ce que t'entends par le mot « pouvoir ».
Ouais, c'est marrant, j'ai écouté un podcast, je crois, il y a 2 jours, où la personne du podcast posait la question « c'est quoi le pouvoir à des enfants ?»
Ok, wow.
Et j'aimais trop leur réponse, je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais c'était assez chouette. Du coup, le pouvoir, pour moi, c'est effectivement très en lien avec la liberté, en fait. C'est presque la liberté d'être, en fait, le pouvoir, pour moi. Et il y a un déséquilibre du pouvoir, puisqu'il y a des systèmes de domination dans la société. Enfin, en tout cas, la société est construite sur des systèmes de domination.
Ouais.
ce qui n'est pas forcément quelque chose de mal. Enfin, je pense que en tant qu'êtres sociaux, et donc on crée des sociétés, et donc on a forcément besoin de d'organiser les choses et de créer justement des systèmes qui font qu'on arrive à s'organiser et à fonctionner ensemble. Mais du coup, quand le pouvoir, quand il n'y a pas de justice du pouvoir, bah du coup, le pouvoir, il est juste limité à certaines personnes qui prennent la liberté des autres, en fait. Mmh. Et du coup, quand je parle de repenser le pouvoir et de redonner le pouvoir aux gens, c'est de pouvoir rééquilibrer ce quota de pouvoir là qu'on a tous et toutes entre nous, et de pouvoir faire en sorte que les personnes soient plus libres, en fait, tout simplement de leur choix de vie, et d'être qui elles sont, en fait, ces personnes là quoi.
Ouais, ce que j'entends, si on reprend l'exemple que tu donnais avec la naturopathie et la santé, un des endroits où j'entends potentiellement le déséquilibre de pouvoir à cet endroit-là, c'est sur la connaissance de comment fonctionne mon corps, et si j'ai pas cette connaissance-là, j'ai moins de pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps aille bien et que ma santé aille bien, VS la connaissance acquise par un médecin, par exemple, pendant sa formation, quoi.
Ouais, exactement. Et ça serait trop chouette, en vrai, tu vois, que je sais pas, quand on est enfant, le fait d'aller chez le médecin, que le médecin nous explique un peu sur comment fonctionne notre corps, etc. Bon, il y a certains médecins qui le font, mais pas tous les médecins, et du coup je pense que c'est un gros pouvoir justement de la naturopathie de pouvoir faire ça quoi, de transmettre aux gens comment on fonctionne et de quoi on a besoin, et de laisser aussi de la place aux personnes de s'exprimer sur qui elles sont dans un monde où on n'a pas forcément la place justement de s'exprimer là-dessus.
Et c'est à quel moment, du coup, dans ton cheminement entrepreneurial où tu commences par faire ça? T'as dit, j'avais pas conscience encore des enjeux systémiques. Et je pense qu'on mettra plein de mots-clés autour de ça et on expliquera ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme de systémique sur ces notions de pouvoir et de liberté et ainsi de suite. Mais c'est à quel moment où ça, tu commences à le capter? Est-ce que c'est une rencontre, une lecture, un événement? Et je suis curieux de quand tu rencontres ça et comment ça change, du coup, ta posture et peut-être même ton métier, quoi.
Alors, en gros, moi, quand j'étais étudiante, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de genre et aux questions de féminisme parce que, du coup, en tant que personne qui a été assignée fille à la naissance, le patriarcat, je fais partie des personnes qui le subissent, même si pour moi, tout le monde le subit, qu'on soit assigné fille ou garçon. Mais du coup, voilà, c'est quand j'étais étudiante que j'ai commencé à lire des choses. Je me rappelle, le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Bellux, Ne suis-je pas une femme, qui parle aussi beaucoup des questions raciales, de l'esclavage, etc. Mais bon, du coup, voilà, je lisais tout ça, je me formais. Moi, je me formais sur les questions féministes, du coup. J'essayais de pouvoir me situer par rapport à toutes ces dynamiques-là. Plus dans ma vie perso que dans ma vie pro, d'ailleurs, à ce moment-là. Et puis, dans mon école de naturo, il y a des choses qui sont pas forcément vues, justement, depuis un point de vue systémique, tu vois. C'est vraiment une logique individuelle qu'on retrouve beaucoup dans les pratiques New Age, en gros, si on veut, on peut. Et si tu n'y arrives pas, c'est que t'as un problème, quoi.
Ouais.
Et le féminisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on vit dans des systèmes. On vit collectivement dans des systèmes. Et si on veut, on peut pas forcément. Parce que, en fait, on subit toutes et tous des choses, de par notre identité, en fait. Et du coup, à travers le féminisme, c'est plus, si tu veux, tu peux. Mais effectivement, tu as des choses à prendre en considération par rapport à ton identité. Et peut-être que on peut essayer plus de changer ça collectivement. De faire en sorte que collectivement, en fait, on puisse aller vers quelque chose où tout le monde peut.
Ouais.
Tu vois, plutôt que la logique individuelle dont je parlais juste avant. Et donc, du coup, dans l'école de naturo, moi, ça m'a assez surpris de me retrouver face à des discours qui sont, assez sexiste parfois, tu vois, qui utilise des notions de féminin et de masculin de manière justement très new age, comme si en fait c'était des vérités plutôt que des constructions sociales.
Ouais, des définitives, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et donc du coup, c'était un peu, pendant ma formation, j'étais On m'appelait la féministe, je sais plus comment. Enfin,
peut-être hystérique.
J'étais un peu la relou. Non, on m'a jamais dit hystérique. Okay. Je pense que j'aurais
pété un câble.
Pété un plan. Mais j'étais la féministe de service, voilà.
Ok. Ouais.
Et donc voilà. Donc du coup, moi, quand je suis arrivée dans mon cabinet de naturo, je me suis dit, ok, je viens d'apprendre énormément de choses d'un point de vue de la naturopathie. Mais pour moi, il y a d'autres choses à prendre en considération, et notamment, en fait, qui sont les personnes,
oui,
en tant qu'individu dans la société. Tu vas pas avoir le même vécu si t'es une femme ou si t'es un homme, si tu es blanc ou si t'es une personne racisée, si t'es une personne fine ou si t'es une personne grosse, si tu as un handicap, si tu viens d'un milieu ouvrier ou si tu viens d'un milieu plus aisé. Enfin.
Ouais.
Ta réalité ne sera pas la même, en fait, parce que c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai ouvert mon cabinet et que j'ai commencé à accueillir des personnes, bon, j'avais majoritairement quand même des femmes de plus de 50 ans. Et en fait, je savais que j'allais entendre des choses difficiles et que leur vécu allait être marqué justement de par le sexisme et toutes les dominations patriarcales. Mais en fait, c'était tellement vénère, vraiment. Du coup, trigger warning, là, je vais peut-être un peu parler d'agression sexuelle, mais en fait, il y avait énormément de femmes que je recevais qui avaient subi, du coup, des agressions de par leur conjoint, qui avaient subi de l'inceste, qui vivaient une vie dans laquelle, en fait, elles étaient au service de leur famille, de leur mari, de leur employeur, mais qui, du coup, elles, leur vie, c'était quoi? Il y avait pas grand chose, en fait, et du coup, enfin, je trouvais ça hyper dur, et du coup, je comprenais aussi que ces personnes-là étaient pas forcément en bonne santé, parce qu'en fait, trop de stress, quoi. Et du coup, c'est du stress pour moi systémique, qu'on peut pas mettre la responsabilité sur ces personnes, en fait.
Ouais.
C'est collectivement, elles subissent des choses, ces personnes-là, et du coup, moi, avec mes outils de naturo, j'étais un peu j'ai trop envie de vous aider, mais du coup, je fais comment, là? Et donc, c'est à partir de ça où j'ai décidé de me former à d'autres choses pour pouvoir outiller toujours les personnes. Mon goal dans la vie, c'est ça, c'est d'outiller les gens pour que les personnes aient plus de pouvoir. Et donc, je me suis intéressée un peu à tout ce qui est intelligence émotionnelle. Je me suis formée en communication non violente. Je suis allée voir outre-Atlantique, justement, comment est-ce qu'on pouvait infuser le féminisme dans les pratiques du care. Ça commence à arriver en France, on commence à être de plus en plus nombreux et nombreuses à parler de ça. Mais ouais, comment, en fait, c'est important de prendre en considération qu'on vit dans une société qui est construite, plutôt qu'on ait plein d'individus qui essayent de... Enfin, qui partent du même niveau et qui ont les mêmes capacités, quoi. Donc voilà, et donc au fur et à mesure, ma pratique a évolué vers... Je me suis formée au coaching aussi, vers ce que j'appelais pendant un temps du coaching féministe. Et en gros, maintenant, ce que je fais, c'est que je crée des espaces féministes, quels qu'ils soient, donc des ateliers, des retraites ou des accompagnements, pour pouvoir donner plus de pouvoir aux gens. Voilà, en gros, comment je suis arrivée là. J'ai pris un petit raccourci à la fin, mais...
Ouais, il y a plein de choses. Enfin, en t'écoutant, je me disais, oh, waouh. Comment je vais rebondir, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie d'attraper en vol et de creuser, mais la première chose que j'ai envie de faire, c'est aussi de dire, essayer de mettre d'autres mots sur ce que tu as dit sur la compréhension systémique des choses, pour, parce que je pense que c'est des choses, la première fois que tu l'entends, c'est dur d'appréhender le mécanisme et ainsi de suite, et du coup, moi, une formulation qui me traversait, c'est de dire que, comme tu l'as dit, quand on vient au monde, on part pas tous et toutes d'un point d'égalité, même si l'histoire dominante qu'on nous vend, notamment dans nos sociétés occidentales, France, États-Unis, tous ces pays-là, c'est la méritocratie, c'est-à-dire si tu veux, tu peux, c'est tes efforts qui détermineront ta réalité. Là où en réalité, notamment selon le spectre de l'analyse féministe, en fait on a des places prédestinées qui nous sont assignées par effectivement le genre qui nous a assigné la naissance, par le cercle social dans lequel on arrive, et que nos systèmes sociaux sont bien construits pour se reproduire et conserver à l'identique l'endroit d'où on part, quoi. Et bien sûr, il y a des contre-exemples qui montrent que non, en réalité, c'est possible de gravir l'échelle sociale, ce genre de trucs, mais qui sont plus l'exception que la règle, finalement. Et que du coup, le féminisme et d'autres... spectre d'analyse essaye de mettre ça en lumière pour nous faire déjà voir qu'on a une marge de manœuvre personnelle, oui, mais elle est fortement limitée par le poids du système dans lequel on habite et dans lequel on vit, qui en fait crée beaucoup de violence pour différentes personnes à différents niveaux. Donc ça, déjà, je voulais reposer ça. Et ce que j'entends dans ce que t'as vécu avec la naturopathie, c'est que t'étais face à des personnes qui t'exprimaient à quel point c'était violent pour elles, ce qu'elles vivaient des influences du système dans lequel on vit, donc notamment des femmes, qui effectivement sont souvent victimes de ce poids systémique qui valorise les hommes plutôt que les femmes et qui leur permet, où ils se sentent permis de faire plein de choses grâce à ça, et que du coup, quoi faire face à ça, et c'est ton sentiment d'impuissance qui t'a poussé à te dire, ben en fait, je veux les outils et je veux outiller les gens, et ça a créé cette espèce de drive d'aller plus loin que juste la naturopathie.
Ouais, complètement. D'impuissance et d'injustice aussi, en fait, du coup, parce que il y a les personnes que je vois dans mon travail, mais il y a aussi les personnes que je vois dans mon entourage, tu vois, dans ma famille, dans... Ouais. Enfin... Je pense que tout le monde connaît, ouvertement ou non, des personnes autour d'elles qui ont subi des violences ou des agressions sexistes ou sexuelles, ou en tout cas qui subissent le poids de ces dominations, et même pour toutes les autres questions, les questions de racisme, etc.
Oui, qui font partie aussi de ces trucs systémiques, quoi. C'est cercle social, genre. Où t'as grandi, couleur de peau, enfin toutes ces choses qui contribuent à faire en sorte qu'on a des comportements entre guillemets codés par comment on est élevé dans cette société.
Ouais, exactement.
Et j'essaie de réfléchir en live à dans quel sens prendre la chose, mais je pense qu'un premier truc important face à ce constat, c'est juste de se rendre compte du coup de ok. J'ai pas 100% de pouvoir sur 100% des choses dans ma vie. Et que ça, c'est une prise de conscience, je pense, qui est hyper importante, peu importe ce qu'on essaye de faire. Tu vois, moi, mon biais, c'est le biais entrepreneurial, du coup. Là où la majorité de ce qu'on nous vend dans le contenu sur l'entrepreneuriat, sur Internet, par exemple, c'est « fonce, travaille dur, tu vas y arriver », etc. Alors que, ben, en fait, non, on part pas tous et toutes du même endroit. Et on n'a pas 100% de marge de manœuvre sur toute notre réalité, quoi. Mais voilà, juste poser ce constat, je pense, c'est déjà un bon point.
Ouais, à fond. Et du coup, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose que je trouve hyper chouette. C'est que prendre ça en considération, prendre le fait que du coup, on part pas tous et toutes du même stade, et ben en fait, c'est pour moi, c'est un levier énorme dans l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'en fait, quand tu vas te planter, quand il y a des choses que tu vas pas réussir, quand tu vas te prendre des... quand on va te fermer des portes au nez ou quoi, au lieu de voir ça comme quelque chose qui vient de toi, au lieu de te voir comme un échec, de « ah, je suis nulle, j'y arriverai jamais », etc., bah en fait, tu peux te situer et te dire genre « ok, ça, peut-être que je suis pas arrivée parce que, je sais pas, on va prendre l'histoire de la confiance, genre « ouais, là, je me sens pas légitime et tout », bah en fait, peut-être que c'est parce que de ton identité, t'as intérioriser des croyances de je serai jamais assez bien, typiquement, je sais pas, si t'es élevée comme une petite fille ou si t'es une personne grosse, bah en fait tu vas recevoir des messages tout au long de ton enfance que tu vas intérioriser et qui viennent justement de tous ces biais systémiques, et en fait quand tu les pointes du doigt, bah du coup c'est sur eux que tu peux remettre la faute. Du coup, pour moi, c'est vraiment de la force, dans le sens où tu dis ok, bah en fait non, je prends ça en considération et je vais la trouver, la légitimité. Et je trouve que avoir une approche systémique dans l'aventure entrepreneuriale, vraiment, moi, ça me donne envie de sourire, parce que je trouve que c'est vraiment un truc cool, en vrai. C'est genre, ok, en fait, on est comme d'une sorte de jeu, et maintenant, je connais cette règle du jeu, je la connaissais pas avant, maintenant, je la connais. Donc, du coup, je peux la prendre en considération pour pouvoir développer mon activité, et ça, c'est vraiment cool.
Grave, et je pense qu'on se rend pas forcément compte, en plus, de à quel point ça nous impacte. J'ai un exemple là qui me vient de une personne en coaching de groupe que j'avais avec le groupe qu'on accompagne, c'était il y a quelques années, qui est arrivée en session dans un état vraiment pas ouf, grosse crise de confiance en elle pour le coup. Et en fait, elle sortait d'une conversation avec un partenaire avec qui elle avait l'habitude de travailler. Donc mec 6, donc 6 ça veut dire, pour les gens qui n'ont jamais entendu ce mot, assigné homme à la naissance, donc tu te reconnais dans le genre qu'on t'a donné à la naissance, à l'inverse de transgenre, donc cisgenre. Donc un mec cisgenre, blanc, d'une cinquantaine d'années, qui avait une agence de com. Et en gros, il avait fait ça depuis 25-30 ans de carrière, voilà, c'était sa norme, il avait son agence. Et elle, jeune freelance graphiste, 25 ans à peu près, et elle collaborait sur certaines missions avec cette agence et avec du coup ce gars-là. Et elle venait de partir avec lui faire une proposition, faire une prise de brief chez un client. Et elle avait l'approche que moi j'essaye d'enseigner, et que, enfin bref, dans le groupe on essaye d'incarner, de faire des choses qui ont grave de valeur, du bon taf, du coup de faire payer plus cher, enfin de faire des bonnes choses et de faire monter les prix pour que bah ce soit on puisse faire des super beaux projets avec les clients quoi. Et elle avait donc proposé ça à ce directeur d'agence en disant ouais, on va faire ce truc là. Elle avait bossé sur une super presse et du coup avec des prix plus chers. Et lui, il lui a dit, enfin, il lui a balancé comme quoi c'était débile, c'était pas du tout l'approche, qu'il fallait au contraire, parce qu'ils étaient une petite agence de territoire, ils avaient moins de charges et qui du coup ils pouvaient se poser sous les agences parisiennes qui devaient forcément valoriser plus cher, et que c'était ça la stratégie à prendre et que elle avait tort sur toute la ligne. Et du coup, elle arrivait en mode énorme doute sur tout ce sur quoi elle se reposait pour construire la suite et qui avait marché par ailleurs pour ses propres clients. Elle s'est dit, mais en fait, je suis une escroc, j'ai vendu mon identité visuelle à quelqu'un d'autre à 5000 euros et là on va la vendre à 2500 alors que c'est une plus grosse boîte, je fais n'importe quoi. Et en fait, elle a remis en question tout ce qu'elle avait fait depuis 6 mois. Parce que elle avait, sans s'en rendre compte, donné la légitimité de qui a la réalité à un mec plus âgé, parce que c'était un mec plus âgé. Et c'est ça qui avait fait qu'elle avait absolument pas questionné le point de vue de ce gars, parce que bon ben voilà, c'est un mec plus âgé qui a de la bouteille, il a forcément la vérité et donc je me trompe forcément. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant, parce que du coup, ce qu'on a travaillé dans le coaching, c'est justement le fait de dire ben en fait c'est systémique ce qui vient de se passer. T'as décidé qu'il avait plus la vérité que toi, basé sur le fait que tu te positionnes à un certain endroit dans le système et lui à un autre, et qu'on confère naturellement plus de crédibilité aux personnes qui sont à son endroit dans le système. Alors que en vrai, qui sait s'il a raison ? Peut-être qu'il a été récompensé pour ça toute sa vie, mais c'est pas pourtant que c'est la réalité de tout le monde, quoi.
Oui, complètement. Puis en fait, il y a plein de réalités. Enfin, ouais.
Ça, je trouve ça un exemple intéressant, du coup.
Ouais, à fond, à fond. Et ouais, du coup, je trouve que c'est chouette de se situer justement dans l'échelle des privilèges, voir où on est. Pour du coup, si on a envie de créer un futur dans lequel on peut plus tous et toutes être librement, bah soit faire plus de place aux personnes qui ont moins de place d'habitude.
Ouais.
Typiquement, si on est un homme cis justement blanc et qu'on vient d'un milieu aisé, ben peut-être on peut se dire ah en fait il y a peut-être des moments où je vais laisser plus de place aux personnes qui je sais pas, aux femmes racisées qui viennent du milieu ouvrier, quoi.
Ouais.
Et inversement, quand on est du coup plus, bon, du coup là c'est vraiment une hiérarchie, quoi. L'échelle des privilèges, il y en a en haut et il y a des personnes en bas. Quand on est en bas, bah on peut peut-être juste essayer de se dire genre là, je m'autorise de prendre plus de place en fait.
Ouais.
Parce que depuis toujours, on me dit, quand je dis on, c'est vraiment la main invisible des systèmes, quoi. j'ai intégré du coup toutes ces croyances que je méritais pas de prendre de place, que je vais me faire toute petite, invisible, que justement un homme cis blanc aura toujours plus raison que moi. Mais du coup, en se situant, on peut se dire genre non, aujourd'hui je vais prendre plus de place, et puis le lendemain pareil, et puis le jour d'après, etc., etc. Et du coup, je pense que ça peut permettre de pas de changer la hiérarchie, parce que c'est pas le but, mais c'est plus de trouver un terrain horizontal, quoi, où il y a de l'entraide et de la collaboration et de la solidarité entre les gens.
Ouais. Et c'est là où, du coup, ce que tu disais au tout début, que le féminisme et du coup le nom donné au système de domination qui est le mot patriarcat, qui est souvent mal compris, j'ai l'impression, ben en fait il a des influences négatives et fait souffrir certes les femmes de manière beaucoup plus visible, parce que dans la hiérarchie des privilèges, les hommes sont souvent plus privilégiés, même si peut-être même systématiquement, je sais pas trancher entre souvent et systématiquement, mais les deux sont surtout sûrement vrais. et du coup déjà de se situer là-dedans, mais des hommes souffrent d'autres manières aussi. J'ai lu un livre incroyable et sur lequel on reviendra peut-être, de Bell Hooks justement, qui s'appelle La volonté de changer,
yes,
qui est justement sur ça, sur la souffrance des hommes face au patriarcat. Moi, ça m'a beaucoup fait de bien, parce que depuis que je plonge à fond dans tous ces domaines de recherche et de compréhension, je souffrais beaucoup de me dire que je suis
le mal, le méchant dans l'histoire.
Mais c'était ultra intériorisé pour moi, du coup, ça. Que, en gros, c'est de ma faute, un peu. Et du coup, ce livre m'a fait du bien de me dire, en fait, non, je suis une victime aussi. Bien sûr, une victime de manière moins intensive et de manière moins visible aussi, mais surtout de manière moins intensive. Enfin, voilà. Oui, je suis une victime, mais je vis des choses beaucoup moins intenses et délicates et difficiles que d'autres, notamment des personnes, enfin, notamment des femmes. Mais on souffre tous, toutes de ça, en fait. Du fait que, il y a des privilégiés, des moins privilégiés, il y a des dominations dans tous les sens. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, ce que tu disais sur se situer, pour moi, me situer, ça m'a aidé aussi à me dire, ben en fait, j'ai pas envie que ce soit ça la réalité.
Voilà.
J'ai pas envie que ce soit un système où je domine et que on attribue la vérité à ma voix plus qu'aux autres, parce que c'est pas vrai, en fait. Je suis un petit bout de rien, j'ai rien compris. C'est que ensemble qu'on va s'en sortir. Et moi, ça m'a aidé aussi à, dans ma posture d'accompagnant, ça m'a aidé dans toutes mes relations, laisser plus de place. Et c'est ouf quand on le voit. J'ai l'impression que depuis que je baigne là-dedans et que je lis et que je m'approfondis ma compréhension de tout ça, c'est comme si je voyais le monde complètement différemment, en fait.
Mais pour moi, tu finis par c'est comme si je voyais le monde complètement différemment. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est genre changer de prisme. C'est comme si t'avais des jumelles. C'est comme si t'avais des lunettes. T'arrives au monde, on te met ces lunettes-là.
Ouais.
Et en fait, là, tu changes juste de paire de lunettes et tu vois les choses différemment. Et je trouve ça trop important ce que tu dis par rapport au fait que tout le monde, en fait, est victime des systèmes de domination. Parce qu'en fait, c'est le cas. Après, effectivement, il y a des personnes qui subissent plus que d'autres.
Oui.
Mais je pense que souvent, et là, c'est pour tous les mecs qui nous écoutent, souvent, les hommes ont du mal à... En tout cas, de ce que j'observe et de ce qu'on observe dans le féminisme en général, les hommes ont du mal à reconnaître que, bah, en fait, eux, dans leur... Dans les rapports de domination, ils ont la place du privilégié, la place du pouvoir, et donc aussi potentiellement la place de la personne qui agresse, la personne qui, comme on disait tout de suite, qui est méchante, quoi. Mais en fait, se positionner comme victime aussi des systèmes, donc ça veut dire que quand tu te positionnes en victime, ça veut dire que tu n'es pas complètement libre de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu es, puisque tu reçois toutes ces injonctions-là très tôt. Ben en fait, c'est aussi reprendre une forme de pouvoir. Ça veut dire genre, ah ouais, en fait, il y a tout un prisme d'émotions qui existe et je peux les ressentir, mais comment ça se passe? Ou, effectivement, en fait, potentiellement, je prends trop de place. Comment c'est, en fait, si je prends un petit peu moins de place et que je laisse la place aux autres? Et en fait, d'une certaine manière, c'est aussi se faire plus de place, en fait. C'est faire plus de place à ses émotions, c'est faire plus de place à avoir des relations, hyper cool, hyper constructives. Saine, c'est donc du coup faire plus de place à l'amour, c'est faire plus de place à la joie aussi, faire plus de place au plaisir. Moi, je me détermine comme activiste du plaisir, c'est vraiment mon go-to dans la vie. C'est en fait comment est-ce qu'on peut kiffer la vie sans entraver la vie des autres, quoi. Et du coup, ça passe aussi par sans entraver la vie du vivant autour de nous. Mais je pense que les mecs ont tout à gagner, en fait, à aussi se positionner comme des personnes qui subissent le patriarcat, parce que c'est le cas. C'est une équipe, on est tous et toutes ensemble, en fait.
Bah, c'est ça qui m'a fait vachement de bien dans ce livre-là, c'est le côté, en fait, on a besoin de s'allier là-dedans.
Mais grave.
Et même si, et là, il y a une nuance que je pense est importante à apporter, où c'est pas pour autant qu'on se déresponsabilise de nos comportements. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a semblé ultra important en lisant ce bouquin, de me dire, ok, certes, je subis d'une certaine manière parce que on m'a éduqué comme ça. Toute ma vie, on me récompense pour avoir certains types de comportements plutôt que d'autres. Et si je les ai pas, je suis exclu du groupe social. Enfin, moi, par exemple, j'ai trop mal vécu le collège parce que je rentrais pas dans les comportements que les autres mecs avaient et qui définissaient ça veut dire quoi d'être un mec dans un groupe social. Mmh. Du coup, j'ai passé tout mon collège à être pote avec des filles parce que je voulais pas me battre, jouer au rugby, me moquer d'autres personnes. Et du coup, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir survécu à la demande de conformisme de devenir un mec, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et en même temps, bah forcément, ça s'est incarné dans certains endroits de ma vie pour lesquels bah j'ai une part de responsabilité. Et je pense que c'est important de trouver cet équilibre de on a une part de responsabilité et l'idée c'est pas de dire j'ai fait des atrocités mais je suis une pauvre victime moins. Et en même temps de reconnaître ouais, en fait, j'ai pas choisi d'être éduqué comme ça. J'ai pas choisi que de mes zéros à mes aujourd'hui presque 30 ans, on me dise qu'il faut que je me comporte comme si parce que j'ai un pénis et parce qu'on m'a dit quand j'étais gosse que j'étais un garçon. En fait, j'ai pas choisi que tout le monde essaie de me structurer d'une manière que j'ai pas choisi.
Mmh.
Et du coup, il y a cet équilibre à trouver, je pense, surtout quand on est un mec. Enfin, quand on est assigné mec. De se dire, ok, j'ai une part de responsabilité. Il faut que je la prenne et que je fasse le nécessaire si j'ai fait de la merde à un moment donné. Et en même temps, j'ai pas choisi 100% de ça. Et ça aussi, je peux le reconnaître et je peux me battre contre. Et du coup, embrasser le féminisme, non pas comme un truc les meufs contre les mecs, mais comme les humains contre le système oppressif.
Mmh. Ouais, ce que les humains ont mis en place, quoi.
Oui.
Ouais. Ouais. Bah ouais, complètement. Et du coup, ça te demande aussi de réinventer. Moi, une grande part de mon travail, du coup, c'est de déconstruire d'une certaine manière, de pointer un peu du doigt justement tous ces systèmes. Mais une autre grande part de mon travail, et c'est vraiment ce que je trouve trop kiffant dans le féminisme et aussi du coup dans mon activité, c'est de créer des nouvelles réalités en fait.
Mmh.
Et donc par rapport à ce que tu viens de dire. Bah en fait, quand on prend en considération tout ça, d'où on vient, qui on est, etc., on a le choix en fait de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer,
ouais.
Et de se dire genre putain, c'est quoi le futur que j'ai envie de créer en fait. Et ça laisse tellement de possibilités et c'est trop cool parce qu'on peut vraiment créer des trucs hyper joyeux, hyper utiliser aussi tout ce que les êtres humains ont mis en place depuis des centaines et des centaines et des centaines, même des milliers d'années, pour pouvoir se dire vas-y, en fait, on peut vivre collectivement de manière hyper joyeuse, quoi.
Ouais.
Et aussi, je répète, mais joyeuse aussi en lien avec le vivant.
Mmh, mmh, mmh.
Et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir cette possible responsabilité-là, quoi.
Ouais, de ouf. Ouais, ce que tu me dis là, ça fait penser à deux choses que t'as dites avant, qui sont les perspectives d'évolution face à ce constat de, ok, il y a de la domination, on a des endroits différents. Tu disais tout à l'heure, la première étape, c'est de se situer.
Mmh.
Là-dedans, et de comprendre, ok, il y a une hiérarchie des privilèges, où je suis là-dessus. Et ensuite, cette question de qu'est-ce que je fais de cette situation, et comment je peux jouer avec de la meilleure des manières qui m'est possible avec mes ressources, et décider c'est quoi la réalité que je veux créer à partir de là. L'exemple que tu donnais tout à l'heure de, aujourd'hui, je vais essayer de braver un peu le truc et d'y aller un peu plus. Ou si on est à l'inverse, pour moi, par exemple, c'est ce que je travaille. Ok, aujourd'hui, je vais être dans un groupe, je vais me taire. C'est pas aujourd'hui que je vais prendre la parole et je vais laisser les autres prendre la parole à ma place.
Mmh.
Ça, je le vois beaucoup dans les milieux entrepreneurs. Dès qu'on se retrouve en groupe, tout le monde a envie de montrer c'est moi qui sais, c'est moi qui ai la bonne idée, c'est moi qui vais solutionner ton problème. Et ça me saoule avec tout ça parce qu'à chaque fois, moi, je suis en mode, ok, je vais me taire. Je suis vraiment frustré parce que les gens sont pas du tout en train de poser des questions à la personne pour mieux comprendre, mais tout le monde est en train d'essayer de balancer son savoir pour montrer qu'on est mieux que l'autre. Enfin bref, parenthèse. Mais du coup, ce que tu dis là aussi sur créer les nouvelles réalités, pour moi, c'est un truc important pour faire le pont entre se situer et créer la nouvelle réalité. C'est le cadre dans lequel on évolue qui permet de rendre visibles les choses et qu'on se sente en sécurité pour oser faire des nouvelles choses.
Mmh.
Et l'exemple qu'on a fait là, c'est des petits exemples. Il y a plein de choses qui rentrent dans ce cadre, mais demander le pronom aux gens. Parce que ça se trouve, on a été assigné homme à la naissance, mais on préfère se genrer en elle. Parce que voilà, on est en train de vivre une transition de genre et c'est notre choix. Enfin bref, des choses de cadre qui rendent visibles ces systèmes et notre place dedans et qui prennent soin de où on se situe par rapport à ça. Mmh. Je sais que ça, c'est un truc important pour toi.
Ouais.
Dans ton travail aussi.
Ouais. Moi, je tends justement à commencer tous mes espaces par ça, par situer. Donc effectivement, si c'est des personnes qui se rencontrent, on échange nos prénoms et du coup nos pronoms. Et pareil, les pronoms, il y a pas d'injonction en fait. Enfin, si tu utilises elle et que tu es une femme cis, c'est ok. Enfin, c'est pas parce que d'un coup on va demander les pronoms qu'il faut que tu changes de pronom. En fait,
moi, j'ai des fois ressenti le truc où on essayait de caler sur moi. Ouais, je pense que t'es non binaire quelque part, alors que moi je suis très bien avec il. Mmh. Enfin, je m'en fous en fait.
Ouais.
Et du coup, mais c'est marrant que ça crée ce truc de. Mais en fait, peut-être qu'il faut que je change. Alors que oui, non, c'est très bien si vous êtes à l'aise avec votre pronom de base.
Je pense que les pronoms, juste les demander en fait, ça permet de inconsciemment poser, enfin pas inconsciemment, mais de poser un cadre qui dit, ok, on prend en considération le fait que le genre, c'est pas forcément une réalité naturelle, mais que c'est bien une construction sociale.
Oui.
Et du coup, après, tout le monde se met sur ce plan-là, et puis basta. Et en fait, au final, c'est tellement...
Moi, je trouve ça libère de ouf, en fait.
Mais oui, clairement. Donc du coup, il y a les prénoms, pronoms. Et vraiment, ça fait du bien, en fait, quand on le fait. Et je pense que parfois, on peut avoir l'impression qu'une personne est cis, et en fait, elle ne l'est pas. Et du coup, juste demander les pronoms, ça prend en considération sa réalité, et ça, c'est hyper cool. Donc ça vient donner de la sécurité à la personne. Pronoms. Moi, j'aime bien nommer les systèmes, en fait, aussi.
Ok.
Juste nommer les systèmes dans lesquels on évolue, et donc potentiellement les systèmes qui qui oppressent, qui dominent et qui vont nous amener des croyances qu'on a intériorisées depuis l'enfance. Donc souvent vraiment on les cite, le patriarcat, la colonisation, tout ce qui est de l'ordre de la grossophobie, la queerphobie, l'homophobie, allez, on les dit tous, le validisme, donc ça c'est en fonction de t'as un handicap ou pas, le classisme, en fonction de où tu viens dans la société. Et en fait, juste les nommer, ça veut dire que, ce que je disais plus tôt, on a bien conscience qu'on vit dans une société qui est construite sur certaines choses, et on a bien conscience que ces systèmes-là ont un impact sur nos vies et sur nos manières d'agir.
Ouais.
Et donc, du coup, ça, c'est un peu, t'es pointé l'énorme éléphant dans la pièce, quoi.
L'énorme éléphant,
on l'a pointé du doigt et on sait que c'est là. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que potentiellement, par exemple, dans le cadre des retraites que je fais, en pointant cet éléphant-là, si dans le week-end, après, certaines personnes vont dire des choses, vont avoir des actions qui justement viennent de ces systèmes-là, eh ben on mettra pas toute la responsabilité sur la personne en fait. Oui. Ça pourrait être justement l'occasion de dire ah tiens, prenons en considération ce qui vient de se passer et décortiquons et voyons justement d'où ça vient. Bon, après ça arrive jamais dans les retraites, mais ça pourrait.
Ouais non mais c'est hyper intéressant de se dire que en fait c'est juste rendre visibles les mécanismes inconscients qu'on a dans notre langage, dans nos interactions, les choses qu'on prend pour compte. C'est hyper intéressant de faire ça, parce qu'on se rend pas compte, tu vois, moi, je le fais encore à certains endroits. Par exemple, tout à l'heure, on avait la blague où on parlait du mansplaining. Il y a des fois où, sans que je m'en rende compte, je commence à expliquer des trucs alors que j'ai pas besoin de les expliquer. Enfin, c'est clair. Parce que j'ai été éduqué à me dire, oui, voilà, tu sais, tu expliques, plus je suis formateur, donc ça aide pas.
clairement.
le biais de la posture professionnelle. Mais j'adore quand on me le fait voir. Parce que, pardon, je suis rentré dans mon mode par défaut et c'est pas ce que j'ai envie d'incarner dans mes relations, quoi. Donc je trouve ça super précieux.
Ouais, à fond. Et ça, je pense que c'est la part de nous qu'on pourrait appeler l'ego qui s'attache justement à tout ça. Et quand on pointe du doigt, potentiellement, ça peut aussi nous permettre de faire de notre ego plutôt un allié qui potentiellement peut se remettre en question plutôt que d'être sur la défensive et tu vois de typiquement de par exemple mal prendre le fait que quelqu'un te dise tu m'as un peu mansplainé quoi.
Grave, c'est vrai que c'est intéressant de le voir sur ce spectre là parce que moi je me suis un truc pour lequel je me suis pas mal fouetté. Tiens, je suis en train de me livrer dans cet épisode, c'est fou, mais
allez, c'est parti.
Non mais c'est un sujet difficile pour moi en plus de me livrer parce que je vois que j'ai une grande part de j'ai peur de dire de la merde. Alors que j'ai vraiment envie de bien faire. Et je pense que ça parle de ce que tu dis là sur l'ego, de... En fait, à un moment donné, ce truc-là, il a fait switch de... j'ai envie d'être un bon féministe, tu vois.
Ouais.
C'est ce fameux truc et je pense que beaucoup de personnes l'ont. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en tant que homme cis, il y a un enjeu encore plus grand d'être un bon féministe, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Ça a jamais été mon désir de faire du mal aux autres. Et du coup, s'il y a des endroits où je le fais, je suis en mode, oh, putain, fais chier, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc de, quand ça m'arrive, de mansplainer ou de prendre trop de place par rapport aux autres et ainsi de suite, il y a une part de moi qui est en mode, merde, putain, faut que je m'entraîne à faire mieux. Et du coup, c'est, quand on me le fait remarquer, je suis en mode, trop bien, super, opportunité de faire mieux.
Mais ouais.
Plutôt qu'être en mode, oh merde, fais chier, pourquoi tu me l'as dit? Enfin, ça me fait du bien maintenant.
Ouais.
Et ça devient une blague, on en rigole.
Bah ouais, et ça c'est trop cool parce que du coup c'est comme ça qu'on peut changer les choses, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est ça aussi qui est hyper important dans le fait de nommer les systèmes, c'est qu'en fait on n'est plus dans la honte qui nous dit je suis une mauvaise personne,
oui.
Genre je suis un mauvais féministe.
Oui.
On est dans la culpabilité, et là dans la culpabilité on peut réparer.
Oui.
La culpabilité dit ce que je viens de faire c'est pas bien.
Ouais.
Ou ce que je viens de dire c'est pas bien. Mais du coup quand c'est pas je suis mais j'ai fait. Bah j'ai fait, on peut réparer.
Mmh.
Je suis, c'est dur ce que ça nous prend. C'est l'identité. Ça veut dire que nous, en
ouais,
tant qu'être humain, on est mauvais, quoi.
Ouais, grave.
Et on peut agir dans la culpabilité, quoi.
Mmh. Et ça, ça me fait reboucler sur ce que t'as dit plus tôt, qui me semble ultra important dans nos métiers de coaching, où la volonté, c'est l'évolution, et on essaye de voir quelle est la marge et la direction de l'évolution. C'est que quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se disent coaching, notamment dans le monde entrepreneurial, qui sont ultra violentes et qui renfoncent des identités de « t'as pas fait le taf, c'est de ta faute si ça a pas marché ». Moi, je le vois tellement dans les trucs d'accompagnement business où, en gros, dès que ça fonctionne pas, je retourne le truc sur la faute pour l'autre.
Mmh.
Enfin, certains accompagnants qui font ça, qui pour moi n'ont pas du tout une posture d'accompagnant, du coup, mais autre sujet. Et du coup... Mais faut prendre en compte, pour moi, cette dimension systémique là-dedans. C'est de dire, ah ben ok, si t'as pas réussi à super bien pitcher ton truc dans ou super bien mener ta conférence, bah c'est potentiellement qu'en fait, depuis que t'es enfant, on t'a éduqué parce que t'es une femme à pas prendre trop de place, à pas trop parler de toi, etc., etc. Bah en fait, faut le prendre en compte.
Mm.
Du coup, désolé, mais ça va prendre un peu plus d'entraînement.
Ouais.
Que là, une fois, de ton voisin, qui lui a été entraîné toute sa vie à prendre de la place, à parler de lui, à se valoriser, et ainsi de suite.
Ouais. Et du coup, pendant ce temps-là, le voisin, il peut aller faire un travail féministe. Et puis la voisine,
yes.
elle bosse sa légitimité et sa confiance. Et ouais, et bosser sur ses besoins et.
Ouais.
Et sur, ok, comment tu satisfais tes besoins, quoi. Si t'as un besoin de légitimité, ben, ça se travaille. Tout
ouais.
se travaille. Tout se travaille.
Grave.
Ça, c'est cool.
Tu dirais que c'est quoi, du coup, parce que là, on a brossé le truc un peu large, et peut-être qu'on peut essayer d'aider à se resituer là-dessus. Donc on a dit, on évolue dans des systèmes qui sont prédéfinis, et on a une place prédéfinie dans ces systèmes, qui créent plus ou moins de violence pour les autres en fonction de où on est sur la hiérarchie des privilèges. Et le premier taf, c'est de se situer là-dedans, et voir comment j'ai envie de me comporter à partir de là, avec l'enjeu de se dire, bah si je comprends mieux le système et ma place, je peux prendre davantage soin des autres. Et que ensemble on réussisse à avoir plus de plaisir, plus d'épanouissement. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui a peut-être un enjeu d'un projet de vie, d'avoir sa boîte, ou qui voit ce genre de rapport dans ses relations avec sa famille, avec ses proches, peut-être dans sa relation, tu dirais que c'est quoi les choses, enfin qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ok, on a capté, on
ouais.
a compris, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, et ben on se rassemble, on se réunit et on discute de tout ça. Du coup, je vais faire de la pub pour une asso qui s'appelle une asso qui s'appelle Nous Sommes. Leur compte Instagram, c'est Nos Alliés les Hommes.
Okay.
Et bon, je vais faire de la pub pour plusieurs personnes. Donc, Nos Alliés les Hommes. En gros, le but c'est Noélia a créé du contenu sur Instagram par rapport à comment est-ce que les hommes en fait peuvent justement transformer des choses en étant alliés.
Donc ça c'est Nos Alliés les Hommes,
ouais.
Tu disais, ok.
Et en parallèle, mais c'est les deux ensemble, enfin c'est la même entité.
Ok.
Nous Sommes, c'est une association qui met en place et qui est en train de se développer là sur tout le territoire, qui met en place des cercles d'hommes, comme il en existe déjà plein. Mais la règle dans ces cercles d'hommes là, c'est que la personne qui facilite, c'est une personne sexisée. Donc personne sexisée, ça veut dire que ce sont des femmes ou des personnes trans ou non binaires. En gros, il y a pas de mecs cis. qui
trop intéressant,
qui organise les cercles d'hommes, parce que en général ça part dans des groupuscules masculins ou enfin voilà, en gros là c'est du coup il y a quelqu'un qui est qui ne vit pas les mêmes choses et qui vient remettre en perspective un peu tout.
OK.
Donc ça c'est une manière de se réunir pour les
pour les hommes.
Pour les hommes. Et après je pense que c'est en fait genre aller dans des endroits où potentiellement on sait que on va trouver des gens qui vivent les mêmes oppressions que nous. Et c'est là où la mixité, du coup, la non-mixité ou la mixité choisie, c'est important.
Ouais. Et puisque du coup, là, tu dis cercle d'hommes, mais il y a aussi cercle de femmes.
Cercle de femmes,
il y a aussi des... Enfin, voilà, on parle pas des mêmes choses.
Ouais, complètement. Et, mais ouais, moi, je pense que c'est se réunir et discuter et en fait, voir ensemble comment on peut faire autrement. Mmh. Je pense que tout seul ou tout seul dans son coin, c'est difficile parce qu'en fait, on n'est pas fait pour ça. Enfin, on est fait pour, genre, socialiser et et pouvoir remettre les choses en perspective ensemble, quoi. Donc, du coup, il y a plein de choses qui existent pour ça.
Ouais. Et je pense que, désolé, parce que du coup, j'avais envie de rebondir.
Vas-y, vas-y, rebondir, rebondir.
Sur, je pense que, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu dans certains endroits comme ça, ou des espaces comme ça, c'est le fait d'être reconnu dans ce qu'on vit. C'est un premier pas assez incroyable pour déverrouiller ensuite qu'est-ce que je fais concrètement de ça. Et que effectivement, quand on prend conscience de waouh, en fait, c'est ça qui se passe, et qu'on est seul avec ça, c'est ultra difficile. D'où la pertinence de ce que tu dis, des endroits où on se sent en sécurité pour exprimer, peut-être pour la première fois de notre vie à haute voix, et se sentir reçu, écouté, recueilli et reconnu là-dedans, c'est incroyable en fait ça. Mmh. Et là, pour moi, ça ouvre l'espace pour ensuite transformer. Et je pense que ouais, je voulais dire ça pour appuyer sur l'importance de, comme tu dis, se réunir. Avoir des espaces où on se sent en sécurité pour déposer et ensuite se dire bah qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ma vie mais aussi ensemble parce que le groupe devient un soutien incroyable pour ça.
Mmh. Ouais, il y a dans le groupe il y a la grande force du ressentir quoi, de ressentir ce qui se passe dans notre corps et du coup quand on se sent à sa place, quand on se sent comme tu dis reconnu, quand on sent que sa réalité, son existence, son identité, elle est valable en fait auprès d'autres personnes parce que les personnes vivent la même chose ou ont pensé les mêmes choses et tout ça. Bah tu ressens un truc d'appartenance à un groupe en fait et c'est de ça dont on a besoin de pouvoir appartenir à un groupe, mais à un groupe qui est dans une logique de créer un futur dans lequel on a tous et toutes plus de place quoi.
Ouais ouais. Et ça je pense c'est un truc très humain. Enfin moi c'est quelque chose que je vois. Et que j'ai un peu reçu aussi dans tout ce sur quoi j'ai essayé de me former pour le coaching, l'accompagnement, c'est qu'on a tous et toutes besoin de cet horizon d'un avenir meilleur sur tous les sujets de nos vies. Mm. Et sur celui-là, je pense que c'est d'autant plus important parce qu'on se dit, mais en fait, si le monde est conçu d'une manière et la société est conçue d'une manière qui, par défaut, va m'oppresser et me faire vivre des violences... Bah, on a besoin de se dire que ça peut changer un jour, sinon quelle plaie d'être vivant, quoi, vivante.
Bah ouais, à fond. Et en tant que si on reprend la perspective du business, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on a trop besoin de croire dans le futur. Sinon, bah ouais. Notre business, il a pas de sens en fait.
Bah ouais, grave.
Et du coup, pour ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir justement une perspective féministe.
Ouais, de ouf.
Ou situé en tout cas dans son activité, quoi.
Ouais. Et je pense que, comme tu fais le lien avec le business, ces endroits où on se réunit avec des personnes qui voient et analysent les choses sous ce spectre-là aussi, pas que sous le spectre « est-ce que t'as le savoir individuel pour réussir à lancer et développer ta boîte ?» c'est tellement important aussi, parce qu'en fonction du cercle dans lequel on est, de l'analyse de ce groupe sur nous, ce qu'on fait, ben en fait, ça peut être plus ou moins oppressant, quoi. Pour avoir évolué dans différents cadres et dans différents groupes d'entrepreneurs pour développer moi, mon projet, ma boîte aussi, je vois clairement des différences entre les gens qui ont compris qu'il y a un truc systémique qui se joue et les gens qui l'ont pas encore vu. Les retours que je reçois sur ce que je fais, ce que je fais pas, où j'en suis, sont radicalement différents, quoi. Il y a de la valeur dans les deux. Enfin, moi, j'essaye de m'équilibrer sur le fait que bon, ben voilà, les gens qui n'ont pas compris ça, ils surestiment le pouvoir personnel. Ce qui a une certaine... Enfin voilà, parfois c'est utile de surestimer le pouvoir personnel. Peut-être dans les autres, ils sous-estiment le pouvoir personnel aussi à certains moments, et du coup ça aussi, ça a une utilité, parce que ça nous apaise. Mais je préfère clairement les groupes qui comprennent qu'il y a des jeux systémiques qui se jouent, et pas que c'est bon, tu peux tout faire, fonce, fais ci, fais ça, prends un emprunt énorme. C'est ta volonté qui fera tout. C'est pas vrai, en fait.
Ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé plus tôt avant l'enregistrement du podcast, on est un corps, donc on est des animaux, et donc on a un système nerveux. Et en fait, le système nerveux, il a des besoins.
Oui.
Et il a besoin de se sentir vraiment en sécurité, de se sentir safe, etc. Et pour ça, du coup, dans nos activités, on a besoin de construire des choses solides, des fondations, des structures qui sont méga solides, parce que sinon, il y a un moment où, quand ça s'effondre, on n'a pas la force, on n'a pas la résilience au niveau somatique, donc au niveau de nos systèmes nerveux, pour pouvoir continuer, en fait. Ouais. Et dans l'aventure entrepreneuriale, ça arrive tout le temps, enfin, ça arrive de se casser la gueule, plusieurs fois. Et du coup, ouais, ben, ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans une logique systémique, tu ne mets pas toute la responsabilité sur toi, tu mets aussi la responsabilité sur d'autres choses. Et donc, si ton business, à un moment, il bade, ouais. Et ben, t'as la force, grave, quelque part, du collectif pour te relever, quoi.
Ouais.
Effectivement, c'est dans une logique individuelle, ça peut fonctionner, et ça fonctionne. Enfin, on a la preuve un peu partout. Mais on a aussi la preuve de business qui dure pas plus de 5 ans parce qu'en fait tu t'es crashé avant même que t'aies une sorte de résilience à l'intérieur de ton activité, quoi.
Ouais. On s'est dit plein de choses. Et de toute façon, je pense que c'est impossible d'être exhaustive sur ce sujet-là. Et tant mieux, parce que du coup, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent vont aller explorer d'autres horizons. On a posé pas mal de noms et de choses. Moi, je vais redire le nom de Bell Hooks. Je pense que tous les livres de cette personne valent le coup d'être lus sur ce sujet. Mais peut-être pour ouvrir ou peut-être pour redire quelque chose qu'on a déjà dit, je voulais te poser la question de, pour toi, c'est quoi l'apport le plus précieux de l'analyse féministe sur ton aventure ou l'aventure entrepreneuriale au sens global du terme?
J'ai des frissons, du coup.
Oh.
Bah, c'est le plaisir, en fait. C'est genre, pour moi, ça apporte le plaisir, vraiment. C'est genre, et tu vois, rien qu'en te le disant, genre dans mon corps là, je sens que c'est là, c'est en fait, ça m'apporte de la force, ça m'apporte de la une forme de pouvoir, dans le sens, j'ai des possibilités, et ouais, ça m'apporte du plaisir, quoi. De, il y a une phrase que j'adore répéter, c'est à quoi bon si ce n'est le plaisir. Et dans nos activités, c'est trop ça, en fait. À quoi ça sert de faire un business si on kiffe pas? Et donc, du coup, qu'est-ce qui m'empêche de kiffer? Et là, on tombe dans la systémie. Et donc, on travaille tout ça. Et après, ça fait plus de place au plaisir. Et c'est, pour moi, c'est vraiment une boussole, en fait. C'est genre, les business orientés plaisir, c'est des business durables. Et moi, c'est ça que ça m'apporte. Et c'est ça que je transmets aussi et que j'amène dans les espaces que je crée, que ce soit les retraites ou les accompagnements ou les collectives, qui est un groupe, d'entraide entre entrepreneurs, entrepreneuses féministes. Mais ouais, c'est le plaisir.
Et effectivement, je pense que cette boussole est permise aussi par cette analyse systémique et féministe, à l'inverse de la seule boussole qu'on nous dit de suivre la plupart du temps, qui est croissance, plus de chiffre d'affaires, développement. Et qu'on prend comme acquise, en fait. On se dit, bah ouais, c'est la seule vérité qui existe. Évidemment, le besoin de sécurité est important, comme tu disais, d'avoir des bases solides qui nous permettent de nourrir nos besoins primaires. Mais à partir de là, plaisir, développement, la balance, elle est importante à poser, je crois.
À fond. Et puis, quelque part, orienter son business sur la croissance, c'est aussi répondre à son besoin de sécurité, parce que du coup, tu te dis que tu as toujours des fonds, que tout fonctionne, etc. Mais le jour où ça fonctionne plus, très bien, ben, qu'est-ce que t'as d'autre? Et du coup, ouais, je pense que le féminisme, ça nous apporte la résilience aussi, en fait. Et du coup, dans la résilience, il y a le plaisir. Ça nous apprend à rebondir, ça nous apprend à... Ben, j'ai encore envie de dire, ça nous apprend à kiffer, enfin, vraiment. Et à kiffer ensemble, et pas à kiffer... Enfin, en fait, au final, c'est ça qu'on veut, c'est kiffer ensemble, c'est passer des bons moments ensemble, que ce soit dans le monde du business ou pas.
Ouais.
Et ouais, du coup, ça permet ça.
Bah pour moi, ça ramène clairement cette dimension collective plus qu'individuelle. Dans une société qui se veut de plus en plus individualiste.
À fond.
Trop bien. Est-ce que ça te va si on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode,
Chloé? Ouais, ça me va. Bien.
La première question de ce petit rituel de fin, c'est Imaginons, t'es face à Chloé qui démarre. Donc, on va dire 2018, tu ouvres ton cabinet de naturo. C'est quoi le conseil que t'aimerais lui donner avec tout ce que t'as vécu depuis?
Le conseil que je lui donnerais, c'est... Du coup, j'ai plein de conseils qui viennent.
Pense.
Et en fait, je crois que le premier conseil, c'est genre, aie confiance. Genre, vas-y. Aie confiance en toi, ça va fonctionner. Tu vas trouver ton chemin, quoi. Je pense que ce serait ça le premier conseil que je me donnerais. C'est dur comme question parce qu'en même temps, je suis assez contente de mon parcours, du coup.
C'est souvent quelque chose qui ressort, c'est en fait, j'aurais pas envie de changer quoi que ce soit.
Ben ouais, non, je crois pas. Peut-être je me dirais, c'est complètement légitime de faire en sorte que les personnes avec qui tu vas travailler pour t'aider dans ton activité, c'est légitime que tu veuille que ces personnes-là soient justement dans un engagement féministe, tu vois. Ça, j'ai un peu attendu pour le faire, parce qu'en même temps, je trouvais pas ça forcément en francophonie, et j'ai dû aller outre-Atlantique pour trouver des personnes qui font du féministe business, ce qu'on appelle. Là, je rends hommage à Kelly Diels, qui est ma star, avec Belloux aussi,
Oui.
et avec d'autres personnes, Adrienne Marie Brown, notamment.
C'est l'instant
Là,
name
je les
dropping.
place. Mais ouais, peut-être que je me dirais ça. Je me dirais, ok, travaille avec des personnes qui sont engagées, mais pas engagées dans du flanc, quoi. Qui sont vraiment engagées. Et je me dirais, fais-le dès le début. Mais au final, tu vois, c'est aussi ça qui m'a permis d'en arriver où je suis. Donc, aie confiance, c'est un bon conseil.
Ok. J'ai envie de te poser une autre question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Donc je sors un instant du rituel de fin, si ça te va.
Yes.
Tu disais que c'était vachement dur pour toi de recevoir dans la tronche toute la violence que tes clientes vivaient à l'époque.
Ouais.
Comment t'as fait pour passer ça? Parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent vivre, notamment dans des postures d'accompagnement ou d'accompagnante. Tu vois, tu te reçois tout d'un coup quelqu'un qui te partage un truc ultra intense. Enfin voilà, je suis curieux de t'entendre là-dessus.
Ouais, et ben c'est marrant parce que du coup, je pense que la réponse c'est dans mes propres traumas en fait. Le fait d'avoir vécu des traumas qui sont d'ailleurs pas des agressions sexistes ou sexuelles, et heureusement parce que là je pense que ça aurait peut-être été plus dur. Mais moi j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant, et du coup, enfin j'étais vraiment jeune quand j'avais 8 ans, et à 8 ans quand tu perds un de tes parents, t'es obligé, je pense, de rebondir à un moment en fait, sinon tu. Enfin en fait, tu grandis en rebondissant quoi. Et du coup, c'est là où j'ai créé une force, je pense, une certaine forme de résilience. Et je pense que cette force-là me permet aujourd'hui de justement vraiment réussir à maintenir les possibles souffrances des autres. Et en parallèle, tout un travail, moi aussi somatique. Enfin, quand j'étais naturo, j'étais aussi suivie, moi, soit en supervision, soit juste en thérapie. Et d'avoir justement des espaces où je pouvais décharger ça à côté, quoi. Mais ouais, je pense que la manière dont j'ai pu maintenir ça, c'est que ça fait partie de mon histoire en fait, de maintenir des choses qui sont hard, parce que je l'ai fait pour moi. Et du coup, c'est d'une manière très chouette, parce que notamment dans les retraites, il se passe des choses. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de joie, mais il y a aussi du healing, une sorte de forme de guérison, quoi. Et c'est facile pour moi de maintenir ça, de maintenir un espace comme ça, genre comme un. Je sais pas, comme un. Qu'est-ce qui pourrait maintenir? Un bain moussant, tu vois? Ou un gros pull bien chaud. Enfin, tu vois, quelque chose
Bon,
qui
en tout cas, tu
te.
tiens le cadre, quoi.
Ouais. Et c'est une force intérieure que j'ai et que je chéris beaucoup. Et dont je prends soin pour pouvoir la maintenir dans le temps, quoi.
C'est ça l'histoire interne que t'as sur cet événement de ta vie, du coup? Ça m'a créé la force que je donne aujourd'hui à mes clients?
Bah ouais. Et puis ça donne. La mort de ma mère, ça donne aussi de la force dans mon activité, en fait, tu vois? Enfin. Moi, je me dis, je reparle encore des retraites, mais à chaque fois, quand j'arrive dans les maisons où ont lieu les retraites, à chaque fois, je pense à ma mère, et genre comme si elle était là, tu vois, en me disant, genre, ah, c'est aussi pour elle, en fait, que je crée des espaces qui sont justement centrés sur le plaisir et sur le et sur le bien-être, quoi. Et du coup, c'est aussi ma force dans mon activité. Enfin, quand je pense à mon activité, les jours où je vais pas très bien, où genre perds de confiance ou quoi, ben genre je pense à ça, je pense à mes sœurs, je pense à mes neveux et nièces, tu vois aussi. Genre, ok, c'est quoi le monde que j'ai envie de créer? Et bah potentiellement un monde dans lequel tout le monde a sa place et prend du plaisir.
Ça me parle beaucoup parce que tu sais, j'ai une expérience commune aussi sur la mort d'un parent, la mort de mon père. Pour le coup, j'avais 20 ans et pas 8. Donc, je pense que j'avais une autre forme de maturité et de développement pour l'analyser, mais aujourd'hui, l'histoire que je me raconte sur ça, c'est que si ça ne s'était pas passé, j'aurais pas toutes les choses incroyables que j'ai dans ma vie et j'aurais aussi pas le même degré d'impact dans ce que je peux transmettre et comment je peux me connecter avec les gens que j'accompagne. Et j'ai l'impression que c'est ça que j'entends chez toi.
Ouais, complètement, complètement.
Et je trouve ça fou parce que du coup, j'accède à la fois à une forme de gratitude incroyable que ça se soit passé, genre en mode c'est ouf. Et en même temps, une grande tristesse qui ferait que je changerais le passé si je pouvais pour si j'avais l'occasion, je claquerais des doigts et j'efface tout et on recommence, quoi.
Mais comme on peut pas, eh ben on en fait quelque chose.
Exactement.
et c'est encore l'occasion de rajouter cette phrase, à quoi bon si ce n'est le plaisir, du coup. En fait, ça, on peut, même si on vit des choses difficiles, on peut quand même faire une place au plaisir dans sa vie, quoi.
Ouais.
Et rebondir, du coup, des choses dures qui nous arrivent. Si on trouve un cadre
qui nous aide à le faire,
qui nous permet de le faire, ouais.
Ouais. C'était quoi la plus grosse difficulté que t'as vécue dans ta vie entrepreneuriale, donc depuis que tu t'es lancée?
C'est marrant, la première chose qui me vient en tête, c'est les moments où je n'avais pas d'argent. Mais au final, c'est pas la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, je pense que ça a été de et c'est plutôt récent, en fait, quelque part. Je pense que ça a un an. C'est de vraiment affirmer ma posture. De vraiment créer mon activité de toute pièce plutôt que d'essayer de faire des choses qui existent déjà. Et c'est, pour moi, c'était plus facile, d'une certaine manière, de faire des choses qui existaient déjà. Parce qu'en fait, ça existe déjà, donc potentiellement, ça peut fonctionner. Et tu te grilles moins aussi. Enfin, tu sais, tu te fous moins à poil, quoi, d'une certaine manière. Mais tu t'ennuies. Et puis, t'attires pas forcément les bonnes personnes, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de joie et beaucoup de kiff à créer vraiment mon activité aujourd'hui. Et à me dire, hey, allez, on essaye ça et on y va. Je pense m'autoriser à ça, ça a été la plus grande difficulté.
Comment t'as fait pour t'autoriser à le faire?
Ben, c'est tout ce qu'on vient de dire, tout ce dont on vient de parler. Inclure la systémie dans mon travail, déconstruire des choses pour en reconstruire de nouvelles, faire un gros travail somatique, donc prendre vraiment en compte mon système nerveux dans mon activité. Et donc, ça veut dire prendre en compte la sphère émotionnelle, prendre en compte les besoins, prendre en compte ma réalité, quoi. Et puis aussi, on va pas se mentir, me pousser, quoi. Enfin, genre, me dire, bon, allez, là, c'est bon. tu y vas, quoi.
Ouais.
Tu oses. Et puis si tu te grilles ou si tu te crames ou quoi auprès de certaines personnes, parce que c'est ça la peur au fond, c'est d'être vu comme une personne, le mot qui me vient, c'est une personne folle ou une personne extrême ou trop radicale ou quoi. Il sera toujours temps de soit faire un pas en arrière si effectivement t'as été trop loin, mais au final je pense pas que à un moment on puisse aller trop loin.
Oui, non, je pense que les gens oublient de toute façon. Sur ça, j'ai entendu un truc sur un podcast récemment qui m'a fait rire, de quelqu'un qui a publié une photo de la reine Elisabeth 6 mois après sa mort sur LinkedIn, je crois que c'était, et qui demandait, est-ce que vous avez pensé à cette personne aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a fait dans les dernières années de sa vie? La réponse est évidemment non. Enfin voilà, je sais pas si vous, en écoutant ce podcast, vous avez pensé à la reine Elisabeth aujourd'hui, mais a priori non, alors que c'est une des personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité récente, en tout cas. Alors si on pense pas à elle, 6 mois après sa mort, clairement je pense que si nous on fait un truc avec nos boîtes là, dans 6 mois tout le monde a oublié quoi.
Mmh. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, il y a des trucs sur Elisabeth qui me viennent en mode genre, alors la colonisation, on en parle.
C'est vrai.
Mais, comme quoi, pas non plus trop déconner.
Tout à fait.
Mais oui, je suis effectivement, je suis d'accord avec toi.
Elle a apporté des belles et des mauvaises choses.
Ouais, voilà. Mais on se met beaucoup de pression sur nos activités et sur ce qu'on va faire. C'est comme si on jouait notre vie.
Ouais.
Et
ce qui est quelque part le cas, en vrai. Même si il n'y a pas la...
Le cas.
Bah, entre guillemets... Ce qui se passe avec mon entreprise influence clairement ma vie et du coup faire certaines choses ça change ma vie, mais c'est pas pour autant que ma vie s'arrête si je fais une bêtise quoi.
Oui, oui, clairement. Et ouais, quand je dis on joue notre vie, c'est en gros
on meurt
ouais. Et non, enfin
ouais.
Et surtout que souvent on se met la pression sur des choses qui sont quand même assez enfin clairement on risque pas de mourir en abordant tel ou tel sujet dans sa newsletter ou en
lu par 100 personnes
ouais, clairement
ouais. Et aujourd'hui, après quoi, Chloé du présent, elle court après quoi aujourd'hui ? C'est quoi son objectif du moment ?
Mon objectif du moment... Mon objectif du moment, c'est de continuer de répandre le plaisir autour de moi. Mais vraiment, et de continuer d'avoir des retours que j'ai des personnes avec qui je travaille, qui me montrent qu'effectivement, je répands ce plaisir-là. Enfin, en tout cas, je contribue à répandre du plaisir et autour de moi, quoi. Ouais, de continuer à faire ça, de continuer à créer un futur dans lequel on peut tous et toutes fleurir, en fait. De contribuer à plus de justice sociale avec mon activité, de montrer que c'est possible d'avoir un business vraiment engagé. Et pas engagé pour des pâquerettes, quoi.
Oui.
Alors que les pâquerettes, c'est très bien. Mais ouais, genre de politiser... Moi, un de mes buts, c'est de vraiment politiser le bien-être. Donc là, c'est quelque chose que je fais avec d'autres personnes en francophonie. Et
heureusement.
Heureusement, ouais.
Que tu n'es pas seule.
Oui, clairement. Et du coup, que ça, ce serait trop cool que ça s'étende en fait à plus que le bien-être, parce que dans tous les cas, en fait, tout est politique et les business neutres, moi, j'y crois pas. Enfin, si on est neutre, en fait, on est pour le statu quo, quoi.
Ouais. Je pense que toute personne ou entreprise l'est, mais ose pas l'assumer, quoi.
Exactement.
Enfin, tout le monde a un point de vue, quand même.
Et ça peut être joyeux.
Ouais.
C'est ça qui est cool.
Grave.
Il y a un livre qui s'appelle Joie militante qui parle de ça, qui parle de comment en fait on peut changer les choses dans la joie. Plutôt que dans la, je sais pas, dans la haine ou dans la peur.
Ouais.
Et moi, c'est ça, ouais, je crois, mon goal. C'est de continuer d'être dans la joie, dans le plaisir, de répandre ça autour de moi et d'accompagner les personnes à pouvoir l'être aussi, quoi.
Et ce que j'entendais de ce qu'on partage, c'est que du coup, en ce moment spécifiquement, tu cherches à voir s'il y a un gap entre l'intention que tu poses, qui est de faire ça avec ce que tu fais dans tes retraites et ainsi de suite, et la réalité que vivent tes clientes. J'entendais demander des feedbacks, voir si ça se passe comme ça, c'est ça?
En tout cas, les feedbacks viennent me confirmer que, effectivement, après, il se passe des choses, quoi.
Okay.
Donc, pendant et après, il se
donc,
passe des choses.
Donc, a priori, oui, ce gap est comblé.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, okay. Le gap est complètement complet et c'est cool.
Trop bien. Trop bien.
Ça donne envie d'aller plus loin et de continuer.
Cool. La dernière question, c'est une question que tu vas poser, du coup. On se tourne vers les personnes qui nous écoutent. Et avec tout ce qu'on s'est dit là, pour que la réflexion, l'aventure, pardon, les questionnements continuent, quelles questions t'as envie de poser à nos auditeurs et nos auditrices ?
Eh bien, la question que j'ai envie de poser, ce serait... Le changement, il est inévitable dans la vie. Le changement, il arrive tout le temps. Les choses changent. Et donc, du coup, comment est-ce que t'as envie de modeler le changement ? Comment est-ce que tu as envie de contribuer au futur en modelant le changement ? Ce serait ça ma question.
Trop bien. Merci.
Avec grand plaisir.
pour les personnes qui ont envie de te donner leur réponse ou de continuer de discuter avec toi, voir ce que tu fais, où est-ce que je peux les envoyer?
Alors moi j'adore venir parler sur Instagram. j'adore parler avec les gens en général. Donc mon Instagram c'est Chloé l'écrivain.
Tout attaché?
Tout attaché.
Je mettrai le lien.
Ouais. Et sinon il y a aussi mon site internet chloélécrivain.com. Depuis mon site internet ou depuis ma bio Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui s'appelle La Dose, qui est une newsletter bimensuelle. Et La Dose, c'est la newsletter féministe qui fait plaisir. Et elle fait vraiment plaisir.
Donc, petite dose de plaisir. Go.
Ouais, exactement.
Trop bien. Merci beaucoup, Chloé.
Avec grand plaisir. Merci à toi, Thomas.
Bye. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés. Bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.